Chapitre 10. Mardi 8 décembre, l'après-midi. Eric sait qu'il n'arrivera pas à dormir, mais il essaie tout de même. Bien que l'inspecteur Jonalina ait adopté une conduite très souple sur la route 274 qui traverse l'île de Värmdö, il est resté éveillé pendant tout le trajet en direction du chalet où Evelyn Eck était supposée se trouver. Tandis qu'il dépasse la vieille scierie, le gravier se met à crisser sous les pneus de la voiture. Sous l'effet des comprimés de codéine, les yeux d'Eric sont secs et hypersensibles. Il regarde vers un groupe de maisons de vacances en bois posées sur des trois carrés de pelouse. Les arbres nus se dressent dans le froid stérile du mois de décembre. La lumière et les couleurs rappellent à Eric les excursions scolaires. L'odeur des troncs pourris et des champignons sortis de terre. Sa mère travaillait à mi-temps, comme infirmière, au lycée de Sollentuna, et croyait au bienfait de l'air frais. C'était elle qui avait voulu l'appeler Eric Maria. Ce nom peu commun avait trouvé son origine dans un voyage linguistique que sa mère avait effectué à Vienne pour aller voir « Père » de Strindberg au Burgtheater avec Klaus Maria Brandauer dans le premier rôle. Elle avait été si émue qu'elle avait gardé en elle le nom de l'acteur durant de nombreuses années. Petit, Eric essayait toujours de cacher son deuxième prénom. Et adolescent, il s'était reconnu dans la chanson « A Boy Named Sue » sur un disque que Johnny Cash avait enregistré dans la prison de San Quentin. Some gal will giggle and I get red. And some guy'd laugh and I'd bust his head. I tell ya, life ain't easy for a boy named Sue. Une fille gloussait et je rougissais. Un gars riait et je lui éclatais la tête. Croyez-moi, la vie n'est pas facile pour un garçon nommé Sue. Le père d'Eric, qui travaillait à la sécurité sociale, n'avait à vrai dire eu qu'un seul centre d'intérêt dans la vie. Magicien amateur, il avait pour habitude de se déguiser avec une cape qu'il s'était lui-même confectionnée, une vieille queue de pie et une sorte de haut de forme pliable qu'il appelait son chapeau claque. Eric et ses amis devaient s'asseoir sur des chaises à barreaux dans le garage, devant une petite scène qu'il avait construite avec des trappes secrètes. Il avait trouvé la plupart de ses tours dans le catalogue de Bernardo's Magic à Bromélas. Des baguettes magiques qui se dépliaient, des boules de billard qui se multipliaient grâce à une coquille, un sac de velours avec un compartiment secret et une guillotine manuelle à paillettes. Eric repense à son père avec un mélange de joie et de tendresse, à la façon qu'il avait de mettre en route le magnétophone avec le pied et d'effectuer des mouvements magiques au-dessus d'un crâne flottant avec Jean-Michel Jarre en fond sonore. Eric espère de tout cœur que son père ne s'est jamais rendu compte que, plus grand, il avait honte de lui et levait les yeux au ciel devant ses camarades dès qu'il avait le dos tourné. Il n'existait peut-être pas de raison profonde à sa vocation de médecin. Il n'avait sans doute jamais aspiré à autre chose, jamais imaginé une autre vie. Il se souvient de toutes les fêtes de fin d'année scolaire sous la pluie, le drapeau hissé et les cantiques d'été. Il avait toujours eu la meilleure note dans toutes les matières. Ses parents ne s'attendaient pas à moins. Sa mère se plaignait souvent que les Suédois se comportent comme des enfants gâtés en considérant l'État-providence comme un dû, alors qu'il ne s'agissait très probablement que d'une petite parenthèse historique. Selon elle, le système de soins médicaux et dentaires gratuits, l'action sociale en faveur de l'enfance, l'éducation gratuite, tout cela pouvait disparaître du jour au lendemain. Mais pour l'heure, il était possible pour un garçon ou une fille quelconque, sans fortune ni bourse, de faire des études pour devenir médecin, architecte ou docteur en économie financière dans l'ensemble des universités du pays. L'impression de comprendre le privilège que cela représentait était descendue sur lui comme une aura. Toute sa jeunesse, il en avait tiré avantage, plus déterminé et peut-être aussi plus orgueilleux que les autres. Il se revoit assis dans le canapé à Sollentuna, à l'âge de 18 ans, en train d'admirer ses excellents résultats et parcourant ensuite du regard la pièce toute simple. Les étagères ornées de bibelots et de souvenirs, les photographies dans leur cadre en maïchor, des photos de la confirmation de ses parents, de leur mariage, de leurs 50 ans, suivies d'une dizaine de photos de leur seul enfant, du bébé joufflu en habit de dentelle, au jeune homme souriant en costume et pantalon cigarette. Sa maman était entrée et lui avait tendu un formulaire d'inscription à la faculté de médecine. Elle avait eu raison, comme d'habitude. À l'instant même où il mit un pied dans le cursus de médecine de l'Institut Karolinska, ce fut comme une révélation. Quand il décida de se spécialiser en psychiatrie, il comprit que la profession médicale lui conviendrait bien mieux qu'il ne voulait l'admettre. Après son internat et les 18 mois de médecine générale obligatoire avant que l'Ordre national des médecins ne délivre la carte de titulaire autorisant à exercer, Eric avait travaillé pour Médecins sans frontières. Il s'était retrouvé à Kismayo, au sud de Mogadiscio, en Somalie. Ce fut une période très intense, dans un hôpital de campagne dont l'équipement se réduisait à du matériel médical suédois obsolète, des appareils de radiographie des années 1960, des médicaments périmés, des lits rouillés et tachés provenant de services hospitaliers fermés ou rénovés. C'est en Somalie qu'il rencontra pour la première fois des personnes profondément traumatisées. Des enfants ayant perdu l'envie de jouer, devenus apathiques, des jeunes racontant d'une voix atone les crimes atroces qu'ils avaient été forcés de commettre, des femmes ayant subi des sévices tels qu'elles n'arrivaient plus à parler. Il avait senti qu'il voulait se vouer à aider des personnes emprisonnées dans les offenses qu'elles avaient subies et qui souffraient encore longtemps après que leurs agresseurs avaient disparu. Eric rentra chez lui et termina ses études de psychiatrie à Stockholm. Mais il dut attendre de se spécialiser en psychotraumatologie et en psychiatrie de catastrophe pour entrer en contact avec diverses théories sur l'hypnose. C'est la rapidité, le fait que le psychologue puisse s'approcher si vite de l'origine du trauma, qui l'intéressèrent dans l'hypnose. Il comprit que cette rapidité était primordiale dans le cas des victimes de guerre ou de catastrophes naturelles. Il suivit une formation de base en hypnose grâce à l'European Society of Clinical Hypnosis, puis devint rapidement membre de la Society for Clinical and Experimental Hypnosis, de l'European Board of Medical Hypnosis et de la Fédération suédoise d'hypnose clinique. Il correspondit aussi durant plusieurs années avec Karen Holness, la pédiatre américaine dont la méthode pionnière consistant à hypnotiser les malades chroniques et les enfants lourdement atteints continuait de l'impressionner. Pendant 5 ans, Eric travailla avec des personnes traumatisées en Ouganda pour la Croix-Rouge. Durant cette période, il n'eut absolument pas le temps d'expérimenter et de développer l'hypnose. Les situations étaient bien trop graves et urgentes. Il s'agissait presque toujours de couvrir les besoins fondamentaux. Il ne put utiliser l'hypnose qu'une 10aine de fois, et seulement dans des contextes simples, pour remplacer les antidouleurs lors d'hypersensibilité ou pour opérer un premier déblocage dans les cas de fixation phobique. Un jour, lors de sa dernière année en Ouganda, il tomba sur une jeune fille qui avait été enfermée dans une chambre parce qu'elle ne cessait de crier. Les religieuses catholiques, qui travaillaient comme infirmières, lui expliquèrent que la fille rampait dans une rue du bidonville au nord de Mbale. Elle pensait qu'elle appartenait au peuple Bagizou, car elle parlait Lugizou. La nuit, elle ne fermait pas l'œil et criait inlassablement qu'elle était un horrible démon avec des flammes dans les yeux. Eric leur avait demandé de lui ouvrir la porte. Au premier regard, il constata qu'elle souffrait de déshydratation aiguë. Quand il essaya de la faire boire, elle hurla comme si la vue de l'eau lui brûlait les yeux. Elle se roula par terre en criant. Il décida d'essayer l'hypnose pour la calmer. Une sœur du nom de Marion traduisit ces mots en bukuzu, que la fille était susceptible de comprendre, et une fois qu'elle commença à écouter, il lui fut facile de la mettre sous hypnose. En à peine 1 heure, Eric avait pu cerner l'ensemble de son trauma psychique. Un camion-citerne, venant de Jinja, était sorti de la route jusqu'au nord du bidonville sur Mbale Soroti Road. Le lourd véhicule s'était renversé en creusant un profond fossé le long de la route. L'essence pure jaillissait sur le sol par un trou dans le grand réservoir. Se précipitant chez elle, la fille avait trouvé son oncle, lui avait raconté l'histoire de l'essence qui se perdait dans la terre. L'oncle s'y était rendu en vitesse avec 2 bidons en plastique. Une 10aine de personnes étaient déjà sur place quand la fille avait rattrapé son oncle au niveau du camion-citerne. Il remplissait des seaux avec l'essence du fossé. L'odeur était infecte, le soleil brûlait et l'air était torride. L'oncle de la fille lui avait fait un signe de la main. Elle avait réceptionné le premier bidon et commencé à le traîner jusque chez eux. C'était très lourd. Elle s'était arrêtée pour monter le bidon sur sa tête et avait vu près du camion une femme coiffée d'un foulard bleu en train de remplir des petites bouteilles en verre. L'essence lui montait jusqu'aux genoux. Plus loin sur la route, en direction de la ville, la fille avait aperçu un homme vêtu d'une chemise de camouflage jaune. Il venait à pied, une cigarette à la bouche, et lorsqu'il aspirait une bouffée, l'extrémité rougeoyait. Eric se souvenait clairement de l'apparence de la fille quand elle parlait. Les larmes coulaient à flots le long de ses joues, tandis qu'elle racontait d'une grosse voix sourde qu'elle avait capturé le feu de la cigarette avec ses yeux et l'avait amené jusqu'à la femme au foulard bleu. « Le feu était dans ses yeux », disait-elle. Car au moment où elle s'était retournée et avait regardé la femme, celle-ci avait pris feu. D'abord le foulard bleu, puis elle avait été avalée par de grandes flammes. Soudain, ça avait été comme une tempête de feu autour du camion-citerne. La fille s'était mise à courir, n'entendant plus que des cris derrière elle. Après l'hypnose, Eric et sœur Marion avaient parlé longuement avec elle de ce qu'elle avait raconté sous hypnose. Ils lui expliquèrent encore et encore que c'était les vapeurs d'essence qui sentaient si fort qui avaient pris feu. La cigarette de l'homme avait mis feu au camion à distance, et cela n'avait rien à voir avec elle. Un mois seulement après cet événement, Eric était revenu à Stockholm, où il fit une demande de subvention auprès du Conseil de recherche médicale pour se plonger sérieusement dans l'hypnose et le traitement de traumatisme à l'Institut Karolinska. Juste après, il rencontrait Simone. Ils avaient fait connaissance lors d'une fête étudiante. Elle était pleine d'entrain et pétillante, les joues roses. Il avait d'abord remarqué ses cheveux bouclés blond vénitien. Ensuite, il avait vu son visage. Son front était bombé et pâle, sa belle peau cristalline parsemée de taches de rousseur claire. Il se souvenait encore de ce qu'elle portait ce soir-là. Un chemisier cintré en soie verte, un pantalon noir et des escarpins sombres à haut talon. Ses lèvres étaient peintes d'un rose pâle et ses yeux brillaient d'un vert clair. L'année suivante, ils étaient mariés et tentèrent assez vite d'avoir un enfant, mais ils enchaînèrent 4 fausses couches. Eric se souvenait d'une en particulier, un fœtus de fille. C'était arrivé à la 16e semaine de grossesse. Benjamin naquit exactement 2 ans plus tard. Eric regarde au travers du pare-brise et entend la conversation de Yona avec ses collègues de Vermdé sur la radio de la police. « Je pensais à une chose, » dit Eric. « Oui ? » ?»« J'ai dit que Josef Eck ne pourrait pas s'échapper de l'hôpital. Mais à la vérité, s'il est capable de s'infliger tous ces coups de couteau, on ne peut pas en être tout à fait sûr. « Je me disais la même chose, » répond Yona. « Ok. J'ai déjà placé un de mes gars devant la chambre. » « C'est sans doute complètement inutile, » dit Eric. « Ouais. » 3 voitures s'alignent sur le bord de la route sous un poteau électrique. 4 policiers discutent dans la lumière blanche, enfilent des gilets pare-balles et promènent leurs doigts sur un plan. Le soleil se reflète dans le verre d'une vieille serre. Yona revient derrière le volant et fait entrer de l'air froid avec lui. Il attend que les autres s'installent dans leur voiture en tambourinant sur le volant d'un air songeur. La radio émet soudain une rapide succession de sons suivie d'un fort grésillement, aussitôt interrompu. Yona change de station, s'assure que l'équipe est au complet, échange quelques mots avec chacun d'entre eux avant de tourner la clé de contact. Les voitures longent un champ labouré, un bosquet de bouleaux et un grand silo rouillé. « Vous attendez dans la voiture quand on arrive, » dit Yona d'une voix basse. « Bien, » répond Eric. Quelques corneilles s'envolent en battant des ailes. « Quels sont les aspects négatifs de l'hypnose ?» demande Yona. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous étiez l'un des meilleurs au monde, mais vous avez arrêté. Les gens peuvent avoir de bonnes raisons de garder des choses cachées. Certainement, mais ces raisons sont très dures à juger lorsqu'il s'agit d'hypnose. » Yona lui jette un coup d'œil sceptique. « Pourquoi est-ce que je doute que ce soit la raison qui vous ait poussé à arrêter ?» « Je ne souhaite pas en parler, » dit Eric. Des troncs d'arbres défilent sur le bord de la route. La forêt s'approfondit et s'assombrit à mesure qu'ils avancent. Le gravier crépite sous la voiture. Ils bifurquent sur un étroit chemin forestier, passent quelques maisons secondaires et s'arrêtent. Au loin, entre les sapins, Yona distingue une maison en bois dans une clairière obscure. « Je compte sur vous pour que vous restiez là, » dit-il à Eric en quittant la voiture. Tandis que Jonas se dirige vers l'entrée où les autres policiers attendent déjà, il repense au garçon hypnotisé, Joseph, aux mots qui se déversaient de ses lèvres flasques. Un garçon qui décrivait son agression bestiale avec lucidité et distance. Le souvenir était complètement clair pour lui. Les crampes fiévreuses de la petite sœur, le débordement de rage, le choix des couteaux, l'euphorie de la transgression. Vers la fin de l'hypnose, les descriptions de Joseph étaient plus confuses. Il était plus difficile de comprendre ce qu'il voulait dire, ce qu'il percevait vraiment, et de savoir si sa sœur aînée, Evelyne, l'avait réellement forcé à commettre les meurtres.